Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Henri Bourassa, il a un boulevard à Québec, un boulevard à Montréal. Il a laissé un journal important, Le Devoir, fondé en 1910. Mais on a un peu oublié le personnage, ses prises de position, entre autres anti-impérialistes. Et c'est très intéressant parce que la revue L'Action nationale a récemment diffusé sur son site un trésor sonore, comme la revue le présente, justement, la voix d'Henri Bourassa. Il y a plusieurs discours là, qui sont diffusés et on en parle avec l'historien et auteur Gilles Laporte. Bonjour.
Bonjour.
Auteur, entre autres, de Bref Histoire des Patriotes. On est dans le bon mois. Pourquoi c'est intéressant comme ça d'écouter, de réécouter Henri Bourassa, ses discours et ses conférences?
Mais oui, justement, comme tu le disais, un type dont on savait tout, on pensait tout savoir. Henri Bourassa, la question était réglée, le devoir, la lutte contre la conscription, la lutte pour les droits des francophones, hors Québec notamment, contre le règlement 17 en Ontario, mais démodé avant même de mourir, parce que d'autres plus jeunes, comme Lionel Groulx, comme André Laurendeau, vont plutôt se tourner vers un nationalisme québécois à l'encontre du nationalisme biculturel, pourrions-nous dire, d'Henri Bourassa, si bien que le type, il disparaît peu à peu de l'histoire. On se souvenait aussi d'Henri Bourassa de ses discours enflammés. On le présente toujours comme un grand orateur, après tout, petit-fils de Louis-Joseph Papineau, enflammé. Et on avait bel et bien quelques extraits, là, notamment de son discours au marché Saint-Jacques, mais c'était la voix chevrotante, un peu trop emphatique. Et là, c'est le choc. Je vous le dis, depuis ce matin, j'écoute ça. Ça a été 3 heures emballantes parce que je découvre un nouvel Henri Bourassa.
Ah oui.
D'abord, absolument, l'Action nationale, c'est pas un euphémisme, là. On a une autre personne. D'abord, rappelons que l'enregistrement était fait à son insu. Donc, on a droit à quelqu'un de beaucoup plus naturel, spontané, qui interagit avec son public, fait preuve d'un humour, ma foi, assez grand, là. Il a interagi avec les gens, il a un ton de la confidence, et c'est surtout, dans les dernières années de sa mort, on parle de deux discours de 1942 et de 44, c'est le testament, en somme, c'est le bilan de sa vie. On pourrait dire qu'il revient beaucoup sur des épisodes qu'il a lui-même vécu. Pensez-y. Il rapporte notamment qu'il était le passager d'un des tout derniers trains qui traversait la frontière entre l'Allemagne et la France à la veille de la guerre de août 1914. Mm-hmm. Alors, il raconte son voyage, comment il a contacté des gens en Grande-Bretagne et tout le reste. Et là, on découvre donc un ton plus familier, plus chaleureux, foncièrement plus agréable. Et aussi, on voit l'ampleur de ses combats. On s'aperçoit que, oui, bien sûr, il garde un œil sur la situation au Québec et au Canada, mais il est tout aussi attentif à la scène internationale. Il analyse le système linguistique en Suisse, s'intéresse au système des écoles bilingues au pays de Galles,
penche
beaucoup sur le cas de l'Irlande, et même, il voue une admiration, dit-il, à Gandhi pour sa lutte pacifique en Inde.
Et il rencontre Churchill?
Oui, à plusieurs occasions, et surtout, il limite, Churchill, si vous dire comment c'est vraiment agréable à écouter, un ton très familier, où il décrit Churchill tentant d'extorquer de l'argent au Canada afin de financer des dreadnoughts, la construction de cuirassés, pour combattre l'Allemagne. Alors, c'est la force de ces discours, chaleureux, intimiste, mais aussi l'ampleur de ses vues. On s'aperçoit qu'il dénonce, en fin de compte, l'impérialisme britannique. Il présente l'Empire, en somme, essentiellement comme assoiffé de richesses, souhaitant servir partout les minorités, pas seulement catholiques ou francophones. Il se penche sur le cas de plusieurs communautés qui ont vécu le même sort que le Québec. En somme, on découvre un Bourassa humaniste.
Il y a un aspect autobiographique à un des enregistrements.
Absolument. Alors, les deux sont sur le ton intimiste. On est étonné. Et il rapporte notamment son voyage. Là, il est allé à Pau pour un séminaire catholique, puis il a fait un détour par la Suisse. Il a séjourné plusieurs semaines en Grande-Bretagne, où il assiste au débat à la Chambre des communes à l'époque de la loi sur la flotte britannique. Il croise Wilfrid Laurier à de nombreuses occasions. Il est vraiment au fait des enjeux. Il a une culture stupéfiante. Et malheureusement, ça m'amène à formuler un bémol. seule, c'est que pour bien saisir de quoi parle Bourassa, il faut quand même avoir un minimum de culture historique.
Oui.
La plupart des gens pourraient être un peu déroutés, à prime abord, des sujets, des personnes qui l'évoquent, mais pour quiconque s'intéresse à la période cruciale de la Première Guerre mondiale, de la guerre des bourgs, de la lutte entre Borden et Wilfrid Laurier à propos de la conscription de 1917, ces gens-là vont être emballés par la clairvoyance de Bourassa.
Il parle donc de l'actualité, puis c'est pour ça qu'on est parfois, plusieurs d'entre nous peuvent être largués. Là, il faut être un peu historien pour écouter tout ça.
C'est clair. C'est clair, mais en revanche, c'est l'occasion de renouer avec un gars qui a une aisance à s'exprimer en public, une familiarité avec des enjeux parfois complexes, puis un certain talent pour les rendre accessibles à la population. Il provoque régulièrement des éclats de rire dans la foule là quand il fait des bonnes blagues sur l'accent de Churchill ou bien qu'il imite Robert Borden en train de décrier contre les Canadiens français. C'est vraiment absolument exquis.
Présentez-nous l'extrait qu'on va écouter, Gilles. C'est un extrait où il parle justement de son passage à Londres, un de ses passages à Londres.
Alors, on est en train de débattre du projet de loi sur la marine britannique contre la marine allemande. Et Bourassa, effectivement, souligne un fait avéré, c'est que le roi d'Angleterre à l'époque, Édouard VII, est d'origine lui-même allemande. Alors, oui. L'ironie, c'est le fait que le Canada a un roi allemand à Londres et à Berlin. Et surtout, il en profite pour dire combien... tout compte fait, les libertés britanniques que les Britanniques chérissent tant chez eux, ils ne les partagent pas avec leur colonie et c'est assez troublant.
Alors on l'écoute, c'est Henri Bourassa en 1944.
Pas de manifestation dans la foule encore. Quel besoin avons-nous d'une flotte? Es-tu un bonhomme, un grand bourgeois, évidemment, tu es plus bourgeois que je. Marquez, je ne suis pas un quartier ouvrier, c'est un quartier de petite bourgeoisie. Plein cœur de Londres, entre Westminster puis la cité. Un grand bonhomme qui dit, pour nous défendre contre qui? Contre l'Allemagne. Pourquoi nous défendre contre l'Allemagne? Ben, si l'Allemagne nous attaquait, il dit, quoi? D'abord, l'Allemagne n'a pas besoin de nous attaquer. Il dit, pourquoi nous battre contre l'Allemagne? L'Allemagne est un pays mieux gouverné que nous autres. L'Allemagne fait un sort à ses ouvriers bien supérieur aux nôtres. Oui, mais il dit notre roi et notre parlement. Ben, il dit notre parlement nous coûte cher, puis il vaut pas grand-chose. Puis il dit notre roi, c'est un Allemand. Il dit pourquoi avoir deux rois allemands, un à Londres, puis l'autre à Potsdam? Remarquez, il y avait là deux ou trois hommes de police, vous savez, les fameux London policemen. Écoutez ça, personne n'a bronché. Voyez-vous la scène à Toronto, à Ottawa, ou même à Montréal? C'est là, encore une fois, que j'ai appris à apprécier la liberté britannique en Angleterre. Mais pas la fausse liberté britannique, ou plutôt, pas la tyrannie déguisée qu'on appelle liberté britannique en Irlande, au Canada, en Inde ou ailleurs. Quand nous aurons la liberté britannique comme en Angleterre, il y aura moyen de s'entendre.
Alors, Gilles, il dit, quand on aura la liberté britannique comme en Angleterre, il y aura moyen de s'entendre. Expliquez-nous.
Bien, ça peut avoir l'air anodin de dire ça comme si c'était un vieux souvenir, mais quand il prononce ces paroles, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, nouvelle guerre contre l'Allemagne. Donc, ça donne un caractère profondément tragique lorsqu'il montre combien les Britanniques qui nous demandent à nouveau d'aller nous battre pour elle en Europe écrasent nos droits. Là. C'est quand même celui qui a déjà dit « Pourquoi irons-nous nous battre en Europe alors que des Prussiens écrasent des francophones en Ontario? » Alors, contexte de 1944, rappeler les souvenirs pénibles de 1914, c'est pas anodin. Et effectivement, son deuxième discours porte tout entier, lui, sur le fameux vote du plébiscite de 1942, où on nous demande d'oublier une promesse faite au Québec de ne pas imposer la conscription pour qu'on puisse forcer des Québécois à aller se battre sur le front. Alors, évidemment, Bourassa est le principal ténor. C'est pour ça qu'il a derrière lui toute la jeunesse à ce moment-là, ce qui était la jeunesse de l'époque, là. Mm-hmm. Jean Drapeau, futur maire de Montréal, André Laurendeau et tout le groupe du Bloc populaire là, qui lutte férocement contre la conscription. Alors, évidemment, Bourassa reprend du galon. C'est le héros de cette jeunesse pacifiste, et il fait un discours transcendant, justement, de pacifisme, où il montre combien on ne doit pas se laisser leurrer par le capitalisme, les puissances d'argent, qui souhaitent que nous allions nous battre pour elles à nouveau, qui sacrifions nos vies pour une cause qui ne nous concerne pas. C'est particulièrement émouvant et surtout dans le contexte, particulièrement tragique. C'est le chant du cygne aussi dans Henri Bourassa. Hein. Après la crise de la conscription, là, qui se conclut en 1944, on va le voir décliner, moins apparaître, davantage devenir mystique.
Oui, il devait être très mystique à la fin de sa vie. Hein. Ça, oui, je me souviens, j'avais lu ça, oui.
Et ça va amener sa rupture avec les jeunes nationalistes. Il prendra pas le virage de Lien Groulx, d'André Laurendeau, en somme de Gérard Filion, de ceux qui souhaitent moderniser le Québec et d'oublier le rêve d'un Canada biculturel et bilingue que caressait tant Henri Bourassa.
On peut dire que c'est Pierre-Éliott Trudeau qui a poursuivi ce rêve-là?
Non. En fait, je pourrais dire que la branche Henri Bourassa, c'est ça qui le rend difficile à comprendre pour des plus jeunes aujourd'hui. Là, on préfère dire, bon, c'est le fondateur du devoir, passons à autre chose, parce que on peut dire que cette branche-là est éteinte. Elle a peut-être été poursuivie par le père de Stéphane Fillon, suivi cette idée-là.
Léon Dion, femme, c'est le père de...
Voilà. Oui. Une femme comme Solange Chaput-Roland.
Oui.
Des Québécois de bonne foi qui ont cru au Canada, mais qui ont toujours eu d'abord et avant tout à cœur la survie de la culture franco-catholique. Là. Et ça, cette branche-là est à peu près aujourd'hui disparue.
Pourquoi, selon vous? Pourquoi il n'y a pas de descendants?
La polarisation au moment de la Révolution tranquille. La polarisation auquel, d'ailleurs, n'a pas échappé Lien Groulx. Lien Groulx, lui, peut être, d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, il a pu être rapatrié, si on peut dire, par les nationalistes du Parti québécois, d'une certaine mesure, OK? Même Duplessis, à terme, s'en tire mieux, parce qu'ils ont d'abord campé leur identité dans un cadre québécois. C'est ce qui a assuré leur pérennité jusqu'à nos jours. Tandis que les fédéralistes, eux, ont davantage caressé l'idée d'un Québec, d'un Canada qui embrassait toutes les cultures du monde. Là-dedans, la position défendue par Henri Bourassa, qui était majoritaire en 1867, qui était prépondérante, là, le grand rêve du Canada des deux peuples fondateurs,
ouais.
Cette image-là, elle est très prépondérante au début du 20e siècle, incarnée par des gars comme qu'on a oublié aussi, comme Olivier Asselin, comme Armand Lavergne, comme Henri Bourassa, qui étaient à leur manière de grands Canadiens et qui souhaitaient pouvoir parler français de Vancouver à Saint-Jean-Terre-Neuve. Ben, ce rêve-là, il a disparu avec eux.
Vous qui êtes un spécialiste des patriotes, comment Henri Bourassa voyait cet événement historique?
Très ambivalent, parce qu'il est quand même lié par Papineau. Et à chaque fois qu'il se présentait en public, on lui rappelait qu'il était tout de même le petit-fils de Louis-Joseph Papineau et le fils de Napoléon Bourassa, un grand patriote aussi de l'Acadie, Brin de Saint-Jean. Bref, il venait de la cuisse de Jupiter. Mais il a...
Napoléon Bourassa, le grand peintre.
Exactement, peintre, oui. Romancier, décorateur, exactement, qui a écrit aussi des œuvres très nationalistes. Donc, Henri Bourassa était maire de sa ville à 21 ans, là, député à 28 ans, c'était en bon français un wonder boy. Alors, on avait beaucoup d'attentes. Alors, on l'a toujours confondu à tort avec les patriotes. Deux choses l'écartent de l'idéal patriote. La première, évidemment, c'est son profond catholicisme, là, qui fait en sorte qu'il se rapproche beaucoup de l'Église qui a condamné les patriotes.
Ah oui.
Deuxième raison, c'est qu'il se méfiait du républicanisme. L'idée qu'il n'y ait pas de couronne, qu'il n'y ait pas de monarque, faisait qu'on se coupait de nos racines catholiques, disait-il, et qu'on embrassait la foi des francs-maçons.
Mm-hmm. Parlez-moi un peu de la présentation qu'en fait Lien Groulx, parce qu'on l'entend, Lien Groulx, présenter les discours d'Henri Bourassa, puis peut-être la mise en contexte de François-Albert Anger.
Ah, parfaitement. C'est très intéressant parce que sans Henri Bourassa, il n'y aurait pas eu de Lien Groulx, il n'y aurait pas eu d'Olivier Asselin, il n'y aurait pas eu de Paul Bouchard, il n'y aurait pas eu le sursaut nationaliste des années 1930 et 40. Il est à l'origine de ce monde. D'abord, parce que Henri Bourassa avait un front de bœuf. À la fin du 19e siècle, il faut le voir se hisser, là, puis nommer un chat. Il était extrêmement vindicatif dans ses discours et il a pu fouetter toute une jeunesse à ce moment-là. Son rôle d'électrochoc a été déterminant important pour la naissance du nationalisme canadien-français au début du 20e siècle. Puis tout le monde se rallie à lui. Il était l'équivalent d'une autre époque d'un Pierre Falardeau ou d'un Pierre Bourgault. Là. La jeunesse des collèges classiques se ruait pour assister à ses discours. Cependant, la rupture va s'opérer très tôt, dès les années 1920, autour de cette question très simple que tout le monde est à même de comprendre. Henri Bourassa demeure l'homme du Canada, fidèle à 1867. Il croit en la possibilité d'un État bilingue d'un océan à l'autre. Son seul rêve, c'est qu'on se détache enfin de la Grande-Bretagne. En revanche, les jeunes nationalistes des années 1920, eux, se tournent résolument vers le Québec. Ils renoncent à ce rêve binational et considèrent désormais que notre seul espoir, c'est de se replier sur notre État français, comme disait Lionel.
Ah oui. Merci infiniment, Gilles Laporte, pour cette présentation de ces enregistrements-là qui sont fascinants.
Merci. À bientôt. Bye-bye.
Alors, je rappelle que Gilles Laporte est historien et auteur de « Brève histoire des patriotes ». Et vous pouvez écouter aussi les discours d'Henri Bourassa, entre autres sur le site de l'Action nationale, action-nationale.qc.ca/Henri-Bourassa-discours.